La gauche, c'est la sensibilité politique, j'allais dire poétique, mais qui a le souci du peuple, des gens simples, des gens modestes, des gens les plus défavorisés. C'est le gamin que j'étais qui dit je n'oublierai pas l'humiliation qu'ont subi mes parents. Et c'est de dire aujourd'hui, une femme qui loue son ventre, son utérus, c'est pas une femme qui dit j'adore ça. C'est une femme qui dit j'ai besoin de vivre, quoi, j'ai besoin d'argent et je suis du côté de cette femme. Et les gens qui disent nous, on a du fric et on va mettre 300 000 euros pour acheter un enfant, je suis pas de leur côté. Alors après, il se peut que cette dame qui loue son utérus, elle soit de droite et qu'elle vote Marine Le Pen, et que l'acheteur de l'enfant, il soit de gauche, de la gauche caviar, etc. Après, c'est plus mon problème, cette gauche-là et cette droite-là.
Bonjour à tous et bienvenue à bord d'un nouveau numéro de Contact. En face de moi, un homme qui se passe aujourd'hui de présentation, un philosophe très médiatisé, Michel Onfray, et avec lequel j'ai le bonheur, le plaisir de nourrir un dialogue depuis maintenant une quinzaine d'années. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci d'être là, c'est comme toujours terriblement apprécié. Michel, vous intervenez aussi très régulièrement sur la place publique pour commenter l'actualité, disons-le, fécond de cette actualité, une présence que je qualifierais de lumineuse qui pourrait peut-être aussi masquer le travail à l'ombre des projecteurs et silencieux, celui-là, sur l'œuvre. Alors, près de 150 livres publiés, vous en oubliez même certains titres. Tout à l'heure, à micro fermé, vous cherchiez le titre d'un de ceux-là. Donc, 150 titres, ou à peu près, 4, je pense, dans les dernières semaines seulement. C'est vraiment un rythme d'enfer. Théorie de Jésus, c'était un peu avant Noël. Dans les ruines, c'était Patience.
Patience
dans les ruines, oui. Écrit lors d'un séjour en cellule. Mais chez les moines,
monacal.
Quand même, monacal, je précise, à la Veillée de la Grâce. La Nef des Fous, qui est un peu votre journal sur ce monde, justement, qui est traversé par les convulsions. Nef des Fous, 4e tome. Et j'avais envie de commencer en étant très technique avec vous, Michel. Moi, j'ai souvent l'impression que vous écrivez plus vite que je ne suis capable de vous lire. Et ce n'est pas une boutade, vous avez une production folle ou extraordinaire. Il y a un truc, un secret où c'est vraiment facile pour vous.
Oui, non, heureusement que c'est facile, parce que si c'était difficile, je ferais autre chose. Vraiment,
les
dentistes que je suis ne supporteraient pas d'accoucher dans la douleur, je ne ferais pas d'enfant. J'ai cru très tôt que c'était comme ça, que tout le monde était comme ça. Quand je suis entré chez Grasset par la poste, j'ai envoyé mon manuscrit comme ça et qu'on m'a demandé combien de temps j'avais mis à écrire ce texte et que j'ai répondu 4 jours. Et c'était pour le ventre des philosophes. 4 jours moins l'introduction et un chapitre. Et là, on n'a pas cru que c'était vraiment moi qui écrivais mes textes. On s'est dit, ce type cache quelqu'un d'autre. C'est un pseudonyme, Enfin voilà, et après, on m'a dit, ce serait bien s'il y avait un chapitre nouveau. Et Jean-Paul Antoven, qui était mon éditeur à l'époque, me dit, mais peut-être auriez-vous pu consacrer un chapitre à quelqu'un d'autre. Vous aviez fait Fourier, Diogène, Marinetti. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire l'objet d'un chapitre? Je dis, oui, il suffisait d'avoir des considérations sur la nourriture, dans l'œuvre philosophique, éventuellement dans la biographie et éventuellement aussi dans la correspondance, et ça, c'est parfait. Et il me dit, mais peut-être quelqu'un d'autre. Alors je dis, oui, un Sartre, j'aurais pu faire un Sartre. Il me dit, faites un Sartre. Et je rentre chez moi en Normandie, j'écris mon Sartre et je lui envoie à l'époque par fax. Et là, il s'est dit, le texte était déjà écrit, c'est pas possible autrement. Et alors il refait un test.
Trop facile pour lui.
Oui. Et il refait un test et il me dit, mais votre enfance, là c'est quand même incroyable, parce qu'il m'avait dit, mais vous êtes qui, Michel Onfray, c'est quoi, etc. Alors je lui dis, mon père, ouvrier agricole, ma mère, femme de ménage, 4 ans d'orphelinat, des prêtres salésiens dont certains étaient pédophiles, etc., etc. Et là il me dit, mais c'est du Zola tout ça. Alors là il est convaincu que Michel Onfray est bien Michel Onfray, et il me dit, écrivez ça. Ce serait une espèce de préface autobiographique, et puis c'est bien parce que là, on serait à peu près au nombre de signes voulus pour faire un livre.
Et c'est toujours un test.
Et oui, et je rentre, et je lui fais le texte, et je lui envoie. Et là, il me dit, je suis bien obligé de vous le dire, c'était à l'époque Bernard-Henri Lévy qui était directeur de collection, de la collection dans laquelle je publiais, et il me dit, on a cru que ça n'était pas vous, quoi. Vous ne pouvez pas écrire comme ça, si vite, et d'une manière aussi achevée, parce que je n'avais pas besoin de travailler les textes, ça sort comme ça, je corrige très très peu. Et là, on m'a dit, ne dites pas que vous avez mis si peu de temps, on ne vous croira pas. Et il y a un moment donné où quand vous avez fait près de 150 livres, on est bien obligé de vous croire. Alors évidemment, il y a toujours les personnages sympathiques qui disent il y a un business derrière, il y a des nègres, on ferait n'écrit pas ses livres, il y a des documentalistes, etc., etc. Mais j'adore manger, je ne demande pas à des gens de manger pour moi, j'adore boire, je ne demande pas à des gens de boire pour moi, j'adore regarder des paysages et je ne demande pas à des gens de regarder des paysages pour moi.
Mais peut-être y a-t-il des gens qui dorment pour vous, parce que les journées doivent être longues, non?
Oui, mais elles ne sont consacrées qu'à ça, donc c'est pas si long que ça. C'est-à-dire que j'ai pas de vie mondaine. J'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances. Je me dis pas vendredi soir je m'arrête, je recommence lundi. Je me dis pas je prends 2 mois de vacances et j'écris pas. Je ne me dis pas j'ai 5 dîners cette semaine, etc. Ça n'existe pas ça chez moi. C'est-à-dire tout est tendu vers ça. Donc j'ai la chance d'écrire vite et je ne fais que ça.
Et ça ne pourrait pas être autre chose.
Non, ça non, non. Je souffre quand je ne peux pas écrire. C'est-à-dire que quand je suis une journée sans... je dis bien une journée, hein. C'est-à-dire une journée sans écrire, je le sens, sans travailler même.
Il y a une méthode? On ferait?
Oui, ça s'appelle la méthode Gerfagnon, c'était mon vieux maître qui, à l'époque...
Que vous aimez beaucoup.
Comment?
Que vous aimez beaucoup.
Oui, bien sûr, oui, sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Et Lucien Gerfagnon m'a déniaisé, et à l'époque, on était en pleine période structuraliste. Donc Foucault, Deleuze, Derrida, tous ces gens-là étaient vivants. Et pour un certain nombre de profs, Lacan, etc., Barthes, c'était évidemment le summum, c'était le Graal. Moi, j'étais à la fac de Caen et à Paris, il y avait ces gens-là, quoi. Et à Caen, nous avions notre vieux Gerfagnon qui lui disait ma méthode, méthode érudite. Alors c'est quoi la méthode érudite? Eh ben, si vous voulez comprendre Lucrèce, tâchez de faire de l'histoire, sachez ce qu'est la Rome antique à cette époque-là, sachez ce qu'est un chevalier à l'époque où on dit de Lucrèce qu'il est un chevalier, regardez qui écrit quoi à cette époque, regardez les historiens. Et à l'époque, j'ai fait justement de l'archéologie antique, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait tout ce qui me permettait de bien penser le texte et de ne penser que le texte. C'est-à-dire que on pense le texte avec son auteur, avec son époque, etc. Mais on n'extrapole pas. On ne va pas chercher un complexe d'Édipe, on ne va pas chercher un rapport de classe avec les classes dominantes, tout ce genre de choses. Et cette méthode érudite est restée la mienne.
Ne pourrions-nous pas dire aussi bien penser, simplement? C'est-à-dire que cette méthode érudite, au-delà de l'ambition de produire un texte ou de réfléchir à un texte, c'est peut-être le béaba de ce qui devrait être enseigné à tous ou recommandé à tous. Peut-être pas pour devenir érudit, mais pour bien penser.
Bien sûr.
Pour soi.
Bien sûr. C'est-à-dire que moi, quand je faisais mes études à la fac, je suis rentré à la fac en 76, il n'y avait pas de biographie de philosophe. Ça n'existait pas, la biographie des philosophes. On voulait pas savoir ce qu'était la vie de machin, de bidule ou d'un tel. Kant écrivait la critique de la raison pure et le texte flottait dans l'air comme des idées pures. Mm-hmm. Et on ne voulait pas savoir qui était Kant, quelle était la vie de Kant, ce qu'était la pensée de Kant, ce qu'était sa mère, piétiste. C'est très important, un type qui fait 500 pages pour exploser la métaphysique occidentale et qui ne l'explose pas. Juste pour ne pas déplaire à sa mère, parce qu'il n'est pas question d'être le penseur de l'athéisme d'une certaine manière.
Donc on ne pense pas dans le vide, on pense dans une chair et dans une histoire.
Voilà, tout. C'est-à-dire il faut tout contextualiser. C'était ça ce que disait Gerfagnon finalement. Il faut contextualiser. Moi je suis pour Sainte-Beuve contre Proust. Quand Proust nous dit il y a 2 mois, il y a le moi qui écrit qui n'a rien à voir avec le moi qui vit, c'est faux. C'est, ça va bien quand on a des choses à se cacher ou à se reprocher personnellement, ce qui était le cas de beaucoup de gens qui défendaient ce genre de thèse. Je n'entrerai pas dans le détail, mais c'était la...
Faisons la part entre l'œuvre et l'auteur.
C'est ce qu'on dit.
C'est ce que je reprends.
Mais moi, je vois pas comment on peut, par exemple, dire Sartre a très bien pensé la question de l'engagement, mais il ne s'est pas engagé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou de dire...
Il a écrit d'ailleurs quelques lettres. Il était sur la ligne Maginot, donc il s'est un peu engagé.
Oui, là vous plaisantez, parce qu'il était l'auteur sacré, auteur de l'année dans une revue Collabo en 43. Il pistonnait Simone de Beauvoir pour qu'elle travaille à Radio Vichy.
Il a écrit quelques pièces pendant la guerre.
Il a écrit des pièces qui ont été jouées. Et il y a quelques photos de lui alors qu'il boit du champagne avec... tout ce qui se fait de meilleur dans l'occupation allemande à Paris, etc. Donc moi je dis, mettons ça à la poubelle, ça sert à rien, un type qui nous fait l'éloge de l'engagement, qui s'est pas engagé. Sion, il avait intérêt à tout ça, dire, ah mais non, il y a un auteur, et puis le reste, bah oui, il écrit des textes pro-hitlériens, et il défendait le fascisme roumain, etc. Deleuze avait intérêt à dire ça, son frère était dans la même école que Guy Môquet, il a été résistant, et lui, Gilles Deleuze ne l'a pas été, enfin, moi je reproche rien à ces gens-là, mais je veux dire que ça simplement, il y a un moment donné, il faut un peu de probité. J'aime bien ce mot que Nietzsche utilise souvent. Et la probité consiste à dire, je ne fais pas la théorie de quelque chose que je ne vis pas. Si, un philosophe.
La parole doit être incarnée dans une pratique.
Si on est philosophe, oui. Après, si vous êtes romancier, vous pouvez raconter ce que vous voulez. On ne va pas reprocher à Proust d'écrire La Recherche du Temps Perdu et d'inventer un Jupien, un Charlus, une Odette de Crécy. C'est pas un problème, ça.
Alors, si vous étiez un jeune Michel Onfray dans 25 ou 40 ans qui faisait la découverte de Michel Onfray, qui laisse derrière lui à ce jour 150 livres et probablement davantage au jour où vous n'en écrirez plus, j'annoncerai pas ici votre mort. Qu'est-ce qu'on dira de votre contribution? Et vous me direz, c'est pas à moi de le dire, mais en termes d'ajout au corpus philosophique, parce que vous vous êtes beaucoup intéressé à la pensée des autres, vous nous avez aidé à comprendre, sinon à démasquer, on pourrait dire sur Freud, par exemple, ça vous a beaucoup été reproché. Mais si on avait à faire le bilan de la pensée philosophique de Michel Onfray, de sa contribution aux idées.
Je pense qu'on parlera de moi comme on parle de François Copé aujourd'hui, c'est-à-dire personne ne sait qui est François Copé.
Dit-il certain de faire mouche, parce que tout le monde à la maison se dit « François Copé, je suis censé le connaître ».
Ben non, 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 justement, personne ne connaît. Ça me paraît normal, c'est-à-dire que j'aurais produit quelque effet de mon vivant. Peut-être que ça, ce serait à déterminer par un historien, un biographe ou je ne sais quoi, mais après c'est fini. Je pense que tout ça disparaît. D'abord, on fabrique des générations d'incultes. Et quand on fabrique des générations de gens qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, ni penser, parce qu'ils ont été fabriqués comme ça, parce qu'ils ont été biberonnés à l'écran, parce qu'ils se concentrent 5 secondes, 10 secondes, et qu'un livre de philosophie, ça exige un peu plus que ça, et bien évident que... Mais même regardez des gens comme Derrida, qui sont, je ne me compare pas à ces gens-là, hein, qui sont des monuments, mais des gens comme Derrida, des gens comme Michel Serres, qui sont-ils aujourd'hui? Qui lit aujourd'hui Derrida et Michel Serres? C'est fini. Ou d'autres philosophes, Lyotard, par exemple.
Et je vous dirais René Girard, par exemple, dans un registre un peu différent, on est capable aujourd'hui de dire qu'il y a une contribution, c'est-à-dire qu'il y a quelques idées qui peuvent encore nous aider à éclairer notre lanterne. Si vous aviez à faire, vous, l'hypothèse de ce qu'il y a quelques idées qui pourront tenir la route et nous aider à mieux nous y retrouver?
Non, non, non. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient, comme on l'a cru dans les années 70 du siècle dernier, après le Deleuze de Qu'est-ce que la philosophie, qu'un philosophe, c'est un créateur de concepts et un créateur de personnages conceptuels. Ça, je l'ai cru quand j'avais, je sais pas, 30 ans, parce qu'évidemment, c'est impressionnant, l'ombre de Deleuze quand il est vivant et qu'on découvre un livre.
Le magistère.
Oui, oui, bien sûr. Sartre aussi, voilà. Je fais partie de ceux qui ont été des contemporains de Sartre, de Beauvoir, de Deleuze, de Foucault, de Guattari. J'ai entendu l'annonce de la mort de ces gens-là, moi. Malraux, par exemple. Et donc, je pense que... Non, il ne reste pas grand-chose. Puis parfois, il reste des choses dont on n'imaginait pas qu'elles resteraient. Voltaire n'imaginait pas qu'il resterait avec ses contes ou avec son travail d'intellectuel. Il pensait qu'il laisserait un nom dans l'histoire avec ses tragédies que plus personne ne lit. Qui lit la Henriade aujourd'hui? Plus personne. En revanche, on lit encore, hélas pour les étudiants, Candide. Enfin, je dis pour les étudiants, moi je trouve que c'est génial, Candide.
Parce que c'est toujours au programme.
Ben voilà, parce que c'est au programme, on vous dit, bon voilà, un conte philosophique, Zadig, puis vous avez même des personnages qui ont lu Zadig et Voltaire de Voltaire, et qui se trompent, parce qu'évidemment ils n'ont pas lu. Mais il y a un dictionnaire philosophique de Voltaire qui pour moi est un chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre. Outre, je mets la correspondance de côté, qui était un chef-d'œuvre aussi, mais le dictionnaire philosophique, c'est incroyable. J'en lis un petit peu régulièrement, comme ça, des articles, parce que c'est une espèce de confiserie, et je me dis, mais qui lit aujourd'hui intégralement le journal philosophique de Voltaire? Donc, il a laissé un nom pour ses interventions sur l'affaire Calas, l'affaire Sirven, etc. C'est l'intello engagé, quoi. C'est l'inventeur de l'intellectuel. C'est le grand-père de Béagel. Et donc...
Et de Onfray, pourquoi pas.
et moi, j'ai écrit une dizaine de livres, des haïkus, j'ai écrit des poèmes, et personne ne le sait. Et qu'est-ce qu'il adviendrait de ça? Je sais pas. Peut-être un jour, on dira, Onfray, c'est un type qui accessoirement faisait de la philo, mais qui écrivait aussi de la poésie. J'en sais rien. J'ai écrit une dizaine de livres sur des artistes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'art contemporain. Et j'ai fait une quinzaine de livres sur des artistes. On pourrait dire, ah, il était accessoirement philosophe, mais il a écrit aussi sur la peinture, des choses qui, etc. Ça, je sais pas. C'est la postérité. La postérité, elle se fait en fonction de malentendus, souvent. Et puis, je crois que ce qui est plus probable dans la postérité, c'est qu'on ne laisse aucune trace.
Ce qui n'est pas la pire des choses si, pendant qu'on y était, on a pris plaisir à faire ce qu'on faisait.
Ah oui, oui, oui. Moi, je n'écris pas pour la postérité. J'écris pour être utile à des gens. Si parfois, après ma mort, quelqu'un dit « Ah, mais la conversion de Michel Onfray, ça m'a été très utile, ça m'a permis de lire Lucrèce, et Lucrèce m'a changé la vie comme Lucrèce, à moi, m'a changé la vie », alors, très bien, oublions les 100, disons que j'ai fait 150 livres, ben, oublions 149 livres, et puis retenons celui-ci s'il est utile pour tel ou tel.
Puisque vous parlez d'utilité, j'ai été non pas surpris, mais heureux de voir que vous aviez accepté de répondre à une commande, très probablement, où on vous a demandé en quoi la philosophie pouvait nous aider à construire l'estime de soi dans un monde où on se déteste beaucoup. Mmh. Et je trouve intéressant que la philosophie puisse être appliquée de façon très pratique. Et d'ailleurs, dans certaines des choses que vous retenez quand vous faites inventaire, j'étais surpris d'ailleurs que vous citiez Sartre, que vous aimez pas tellement de façon générale, parce que je pense que c'est lui qui disait que ce que l'on fait de ce que les autres font,
Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous.
Exactement. Effectivement, c'est intéressant parce que c'est l'incapacité que nous avons souvent de ne pas résister à la tentation de se faire dans l'œil de l'autre.
Alors, c'est vrai que j'ai accepté ça parce que, par mail, on voit pas les gens, on accepte, je suis très sollicité. Et là, en fait, on m'a demandé de réfléchir à quelque chose de pratique pour les gens. Et ça, j'aime bien. J'aime bien que la philo puisse être utile aux gens. Et donc, on m'a dit l'estime de soi, si vous pouvez travailler là-dessus. Je dis, ouais, d'accord, très bien. Bon, puis après, j'ai découvert que c'était un peu un business. Bon,
Mais au-delà, parce que j'ai compris aussi que ça en est... Vous le regrettez?
Un peu. Donc.
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement la possibilité que ça puisse être utile.
Oui, c'est ça
que je me suis accroché.
C'est ça qui m'a fait dire oui. C'est-à-dire qu'au départ, puis après, j'ai vu ce qu'il y avait derrière et ça m'a pas emballé plus que ça. Enfin, peu importe. Et moi, je pense que la philosophie doit être utile. C'est ça qui m'intéressait dans la démarche. Et quand on me dit l'estime de soi, je me dis, mais oui, il y a tellement de gens qui s'estiment si peu, si mal. Et parfois, qui s'estiment trop bien. Il y a des gens qui sont très mégalos, très, 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 très narcissiques, très autistes, très, etc., etc. J'ai dit, mais la juste estime de soi, c'est vraiment la bonne question. Parce qu'on me posait cette question, l'estime de soi, mais j'ai dit, mais il ne faut pas se surestimer, il ne faut pas se sous-estimer, il faut s'estimer à sa juste valeur.
Encore faut-il être capable de savoir que nous sommes.
Bien sûr.
Et le connais-toi toi-même, voilà. Serait peut-être le degré zéro. De la réflexion là-dessus.
Le degré premier. Mais vous avez raison. Et de fait, j'aime pas le Sartre politique, parce que bon, il a épousé toutes les erreurs de son siècle. Mais il y a chez lui une psychanalyse existentielle qui m'intéresse beaucoup. Avec des très beaux livres. Sur Genet, sur Mallarmé, sur Flaubert, sur Baudelaire. Où il essaie de savoir comment Flaubert devient Flaubert. Par exemple, dans L'idiot de la famille. Et encore, L'idiot de la famille, c'est 3000 pages et c'est pas fini. C'est un livre inachevé. Parce que c'est le processus de la construction de soi est inachevé et c'est difficile de rentrer vraiment dans le détail. Il dit on entre dans un mort comme dans un moulin, dit-il dans L'idiot de la famille. Mais c'est très intéressant de savoir comment on se constitue. Et aujourd'hui, on est un peu constitué n'importe comment. C'est un peu à la va comme je te pousse. C'est-à-dire, on fait des enfants, on divorce, on se remarie, on fait des couples, on laisse les enfants, on vit une vie d'adulte qui est prioritaire sur celle des enfants, puis les enfants sont un peu paumés, sont un peu perdus. Dans un moment difficile, ils se mettent à boire, à fumer, à se droguer, à avoir des conduites à risque, et puis après, ils font 2 ou 3 sottises avant de se calmer un peu. Ils se marient, font des enfants, puis ils divorcent aussi à leur tour, etc. Il y a une espèce de souffrance chez ces jeunes qu'on laisse un peu partir tout seul comme ça dans la nature. Et ce qui m'intéresse moi dans la psychanalyse existentielle, c'est de dire mais regardez comment chacun se construit. Et même quand vous pensez ne pas vous construire, vous construisez. C'est un peu la thèse de Sartre, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas choisir. Quand vous pensez que vous ne choisissez pas, c'est encore un choix. Et donc, tout ce que vous êtes procède des choix que vous aurez faits. Et les choix que vous n'aurez pas faits seront aussi des choix.
Mmh, opéra.
Voilà. Et donc, c'est toute la thèse du petit livre qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme, finalement une belle conférence bien faite, où il nous dit, elle est salaud, c'est le mot qu'il utilise, et puis les gens authentiques. Le salaud, c'est celui qui n'assume pas les choix qu'il n'aura pas faits, voire les choix qu'il aura faits. Et le type authentique, c'est celui qui dit, oui, j'ai fait ça, ça m'a conduit à ça, bon, ben, j'assume, et puis c'est ainsi. Et j'aime assez cette idée que nous serions libres, responsables, même si je pense que la liberté n'est pas un donné, c'est une construction. Nietzsche écrit qu'il faut se créer liberté. On ne dit pas est-ce qu'on est libre, du verbe naître, ou est-ce qu'on ne naît pas libre. Non, on le devient. Et on ne naît pas libre, on le devient.
C'est un choix ?
C'est une construction. Et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas aidés à se construire comme des libertés ou à se construire comme eux-mêmes, ou voir cette fameuse conférence, à s'estimer eux-mêmes, qui ne savent pas s'estimer, ils sont paumés, ils sont perdus. Donc ils s'aiment trop quand il ne faudrait pas s'aimer, ils aiment pas assez quand il faudrait s'aimer, ou etc. Enfin, ils sont dans l'erreur de jugement parce qu'ils ne peuvent pas dire « je m'estime à ma juste valeur, ça je peux être content de moi là-dessus, là-dessus non, je vais pas être content ou à pas être fier ». Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui veulent être fiers de tout. Il y a des motifs de fierté qui sont effectivement acceptables, d'autres un peu moins. Mm-hmm. Il y a des moments où on dit « ah, je suis fier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». On a envie de dire « non, non, la fierté, c'est quand même autre chose. Il y a quand même une espèce de conquête de soi. Il y a une construction de soi. Il y a une espèce d'effort sur soi qui fait qu'effectivement, on peut se dire « bon, je suis parti de loin, je suis arrivé là où j'en suis ». Il y a motif à fierté. Moi, mon père m'a toujours appris à ne pas être fier. On n'a pas de motif à être fier quand on fait ce qu'on fait.
Et jamais
quand on fait... Non, il avait raison.
Jamais de votre vie, il n'y a aucun moment où vous vous êtes dit, tiens, c'est bien.
Non, jamais. Non, c'est demain que peut-être je peux faire ce qu'il y a encore à faire, puis après demain, puis etc. Oui, et puis à un moment donné, ou peut-être quand on se dit, ben voilà, vous allez mourir dans un quart d'heure, on peut peut-être se retourner sur soi-même en se disant, bon, peut-être que j'ai pas trop démérité. Et encore, s'il reste un quart d'heure, on peut perdre sa vie en un quart d'heure. Une réputation, c'est long à faire, c'est facile à défaire. Une grandeur d'âme, une grandeur d'existence, quelque chose, une belle vie, c'est très compliqué, très long à faire.
Et
c'est
à facile. Construire.
Et c'est, oui, et à construire. Et c'est facile à casser en deux secondes. Et donc on ne le sait que quand on est vraiment mort, et c'est celui qui subsiste qui peut dire « c'était une belle personne ». Ce que je peux dire de mon père, par exemple, « c'était une belle personne ». Moi, je n'aspire qu'à ça, qu'après ma mort, on puisse dire « nous l'avons bien connu, il n'était pas la caricature médiatique qu'on a pu voir, je sais que je suis prisonnier d'une caricature médiatique, et d'une certaine manière, il y avait quelque chose chez lui qui ressemblait à une belle personne, ça me suffirait ».
Mais je reviens à Sartre, et cette fois-ci, je ne me gourerai pas ce que l'on fait de ce que les autres ont voulu faire de soi ou de nous.
Oui.
C'est important parce qu'on est beaucoup condamnés à se définir, comme je le disais, dans le regard, mais dans les attentes des autres. Alors, comment on se libère de ça et qu'on se construit pour soi-même?
Pas facile.
Parce que la philosophie est des réponses.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous avez des parents qui vous disent, ben voilà, t'es un garçon, t'es une fille, donc déjà, tu vas avoir la vie qu'on imagine pour un garçon et la vie qu'on imagine pour une fille. Et puis après, on imagine que, ah ben, soit on aurait bien aimé, je sais pas quoi, faire du piano, être avocat, faire de la recherche, ou j'en sais rien. Puis on se dit, ah ben moi, j'ai pas pu, mais toi, tu vas le faire. Et donc, il y a des enfants qui sont perdus parce qu'ils obéissent à leurs parents, ils sont tétanisés parce qu'ils n'obéissent pas à eux-mêmes. Et donc, moi, j'ai très vite dit non. J'ai très vite dit, bah non, je ferai pas ça. Vous me demandez ça, mais je le ferai pas. Vous voulez que je fasse ça, je le ferai pas. Moi, j'ai envie de ça, plutôt. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'on fait des choix, et on s'oppose. On s'oppose en s'opposant, et c'est là qu'éventuellement, on construit son existence, et puis au fur et à mesure, on se dit, bon, finalement, c'est un trajet que je n'ai pas regretté. En même temps, moi, j'ai eu beaucoup d'échecs qui ont été des succès. C'est-à-dire que quand j'ai voulu que mes parents, ma mère surtout, m'émancipe. Moi, à 14-15 ans, je voulais être émancipé.
Adulte.
Oui, je voulais être autonome, indépendant. Au risque même d'arrêter les études et de bosser à l'usine du village. Mais ma mère ne voulait pas. Évidemment, quand vos parents ne veulent pas vous émanciper, vous n'êtes pas émancipé. Bon. Alors ça, je pense que ça aurait quand même été un succès. Enfin bon. Mais j'ai passé le concours pour devenir instituteur. Et à l'époque, on faisait une école, on avait un salaire. Et là, j'aurais été d'une certaine manière émancipé. Puisque très vite, à 14 ans, je serais rentré si j'avais été reçu. Et là, j'ai échoué. J'aurais été salarié, j'aurais été autonome, indépendant. J'ai loupé l'examen. Il y a eu un autre examen que j'ai loupé pour passer du privé au public. D'ailleurs, j'ai dit que les Allemands avaient gagné la Première Guerre mondiale, ce qui n'était pas très malin. Et donc, pour vous
par
dire...
Par volonté de provocation?
Non, non, non. Mais je pars de loin, moi, vous savez, c'est pas... Je pars d'un milieu où, oui, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'enseignement. Et ce que je sais, je l'ai su parce qu'on me l'enseignait à l'école. Et si la guerre 14-18 n'était pas au programme, bah, c'était pile ou face, et puis voilà, quoi. Donc, évidemment.
On imagine mal aujourd'hui, mais je comprends.
Ça, je vous assure que je pars vraiment de très très loin.
Ah, ça, je le sais, pour avoir vu...
Mais culturellement, etc., oui. Et puis, j'ai voulu être chauffeur de train, et je suis allé à la gare d'Argentan, j'ai demandé... J'avais 16 ans, et on m'a dit, bah, passe ton service militaire d'abord, fais ton service militaire d'abord, passe ton bac, puis reviens nous voir, quoi. Et donc, j'ai pas voulu faire mon service militaire tout de suite, j'ai passé mon bac, j'étais amoureux, comme un garçon peut l'être à 16 ans, et puis je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de partir, etc. Bon, ben, on m'aurait dit, oui, tu commences commence la semaine prochaine, je serai à la retraite depuis 15 ans et j'aurai conduit des trains toute ma vie et puis j'aurai été un autre homme. Donc c'est un peu comme ça là, l'existence, c'est-à-dire qu'il y a des chances, vous rencontrez des gens qui sont des chances dans votre vie. J'ai eu la chance d'avoir un père, j'ai eu la chance d'avoir
un maître,
Gérard Fagnon, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était mon coiffeur dans mon village, qui m'a fait lire Voline, Noir et Rouge, enfin des choses comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Claude qui a été ma compagne pendant très longtemps, j'ai eu la chance de rencontrer Dorothée qui est devenue mon épouse, enfin des gens sans lesquels on ne serait pas ce qu'on est et qu'on a eu de la chance de rencontrer parce qu'ils vous aiment vraiment, pas avec des grandes démonstrations, mais ils vous accompagnent, ils sont là, ils sont présents, ils vous permettent d'exister et puis c'est pas facile de vivre avec un type qui passe son temps à lire, à écrire, à compter, non, mais à penser et qui me dit pas de vacances, pas de week-end, pas de fête, c'est pas simple, on peut avoir une autre vie que celle-là.
Vous citez, quand vous vous êtes intéressé à cette question de l'estime de soi et comment on peut la construire, chacun de nous, Nietzsche, c'est banal parce que c'est une espèce d'ancienne, ce qui ne nous tue pas, nous fortifie. Est-ce qu'il y a une volonté de puissance, pour rester dans l'élan nietzschéen, dont vous savez qu'il vous a happé, jeune, un moment où vous dites, justement, cette vie, ça sera la mienne, je vais... m'extirper, est-ce que c'est le bon mot, de ce destin qui semble écrit et auquel destin vous tordez le cou parce que vous n'avez pas la vie que vous auriez pu avoir. Donc cette volonté de puissance, est-ce qu'elle existe quelque part? Est-ce que vous la sentez?
Oui, et j'ai eu quelques preuves qu'elle existait de manière assez étonnante. Mon père parlait assez peu et un jour il y a des journalistes qui l'ont enregistré. Puis j'ai vu après le film, enfin j'ai vu les images. Et mon père dit à un moment donné que j'ai dit, vous verrez un jour je vous impressionnerai, ou je vous étonnerai, c'était étonnerai. Vous verrez un jour je vous étonnerai. Comment ai-je pu dire une chose pareille? Comment ai-je pu dire un jour je vous étonnerai à mes parents, au point qu'un jour mon père a pu dire, il nous a étonnés. Et donc, J'ai souvenir d'un moment c'est une espèce de photographie gravée dans ma mémoire, il y a plein de moments comme ça dans ma vie qui sont des vrais flashs. Et je suis dans la cuisine de mes parents, j'ouvre une boîte d'allumettes, des petites boîtes d'allumettes, et je regarde ces boîtes d'allumettes et je me dis, mon garçon, t'as rien fait de ta vie. J'ai 12 ans, 13 ans.
Vous vous souvenez?
Oui. Je me suis dit, t'as raté ta vie, t'as rien fait de ta vie. J'ai 12, 13 ans.
C'est jeune pour avoir raté sa vie.
Un peu quand même, quoi. C'est quand même, on se dit, mais comment ai-je pu penser ça? C'est-à-dire que j'avais raté ma vie à 12, 13 ans.
Il faut avoir déjà une idée de soi-même.
Non, parce qu'en fait, j'avais pas du tout la capacité à dire je ferai ceci ou je ferai cela. Je n'étais pas dans la peau de quelqu'un qui disait je serai cosmonaute et vous verrez, je vous étonnerai et puis je réussirai ma vie. Pas du tout ça. Je vous assure que je savais pas ce qu'était. Moi, j'étais au lycée, je savais pas ce qu'était l'école normale supérieure. En terminale, je savais pas ce que c'était que l'agrégation de philosophie, etc., etc. Donc, et je ne me suis jamais dit, jamais mes parents n'auraient toléré que je puisse imaginer ça de moi-même, que je serais devenu, je sais pas quoi, président de la République. Quand je vois des parents qui laissent faire des enfants qui disent, moi, quand je serai grand, je serai président de la République, moi, je n'ai jamais eu ce genre d'idée, et l'aurais-je eu qu'on m'aurait tout de suite calmé, en me disant,
mais
ça va
surtout,
pas, non.
Mais surtout, s'il vous plaît, aie un peu d'ambition pour toi-même.
Non, l'ambition pour mes parents, c'était...
Non, l'idée qu'un enfant qui déclare vouloir être président.
Oui, oui. Non, mais par exemple, c'était pour mes parents, il aurait fallu que je trouve une bonne épouse, que je fasse des enfants, que je fasse un métier honorable et que je me comporte bien, enfin que je sois quelqu'un de bien dans la vie. C'était ça ce que souhaitaient mes parents pour moi. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que je souhaitais aussi, sans trop savoir vraiment comment m'y prendre pour que ça advienne. Mais on tâtonne, on bricole. Peut-être aurais-je pu, si j'étais rentré à la SNCF, faire une carrière de syndicaliste dans la vie cheminote. Je ne sais pas non plus comment ça aurait pu se passer. Mais cette idée très ancienne quand même chez moi, que effectivement j'avais raté ma vie à 12-13 ans, ça c'est quand même un truc incroyable. Et puis à un moment donné, je suis très sensible à l'injustice. Et ça me ravage, le spectacle de l'injustice. Et j'ai vu comment on humiliait mes parents. Ma mère, femme de ménage, mon père ouvrier agricole, mon père qui se rasait trois fois par semaine, et puis un dimanche matin, il se rase, et on vient le chercher en lui disant, il s'appelait Gaston, mon père. Gaston, il va falloir aller travailler parce que la météo est bonne, donc pas de dimanche, quoi.
Pas de dimanche.
Et mon père qui s'en va, et puis qui part, qui prend sa mobilette et qui s'en va travailler. Ma mère à qui on dit, Hélène, vous volez de l'argent. Régulièrement, je mets des pièces un peu partout et les pièces disparaissent. Et ma mère qui dit, mais il n'y a pas de problème, elle s'en va vers la cheminée, elle prend un pot et elle verse les pièces qu'elle mettait dans le pot sur le lit en disant, elles sont là, vos pièces. Et donc, cette humiliation, m'a fait dire, et ça aussi je sais physiquement où ça a eu lieu chez moi, et je me suis dit, alors le mot n'est pas très joli, mais je vous vengerai. C'était pas le mot venger, mais enfin c'était quelque chose du genre, à un moment donné dans ma vie, je n'oublierai pas qu'on vous a fait ça. C'est plutôt ça, j'aime pas le mot vengeance, c'est pas très joli. Annie Ernaux veut venger sa race, je trouve que c'est terrible comme expression. Mais je disais quelque chose du genre, je n'oublierai pas, et là où je serai, comment ai-je pu penser que je serais quelque part qui me permettrait de le faire, mais enfin, là où je serai, je n'oublierai pas que vous avez été humilié, je serai du côté des humiliés. C'est ce qui fait de
c'est
moi...
C'est un pari que vous prenez jeune, consciemment.
Oui, oui. En disant, mes parents ne peuvent pas, ils sont humiliés, ils se taisent, ils ne peuvent pas répondre. Et moi, je porterai cette voix-là. Oui, ça, c'est quelque chose dont je me souviens.
C'est une hypothèse que je fais, peut-être que je me trompe et vous me corrigerez, mais la contribution et la dignité de votre père, ce n'est pas à 20 ans que vous en prenez la pleine mesure, c'est beaucoup plus tard, oui. Avec une espèce de regret.
Oui. Oui, parce que mon père était âgé quand il s'est marié, qu'il est devenu mon père, et donc c'était un vieux papa. Et c'était un homme du 19e siècle, mon père. Il avait été fabriqué par des instituteurs ou des curés qui étaient des hommes du 19e. Et mon père, il était contemporain de Virgile, quoi. C'est-à-dire
monde
que,
de Zola, quoi.
Pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas... Enfin, ça dépend de Zola. Il y a le Zola de la Terre, il y a le Zola de Germinal.
C'est
pas, mais... C'était pas vraiment Zola, qu'est-ce que je pourrais dire? C'était peut-être une nouvelle de Maupassant plutôt qu'un roman de Zola. Et donc, on est perdu là, enfin je suis perdu, vous me parliez de... Oui, mon père, et effectivement, quand mon père m'emmenait en pension, là, il portait des guêtres, et il portait un pantalon de velours, et il portait un cuir rouge bordeaux, un peu délavé, avec un élastique dans le dos. Et il y avait une vieille, une deux chevaux très très propre, en bon état, mais une deux chevaux. Et quand il arrivait, quand il m'amenait en pension, les petits de mon âge, enfin les gamins de mon âge, me disaient, c'est ton grand-père.
Donc un peu de honte.
Alors on se dit, mais où je dis non, oui c'est mon grand-père et c'est la honte. Parce que c'est pas mon grand-père et je trahis mon père. Ou je dis non, c'est mon père et il faut que j'assume les colibés. Du genre, ah, t'es un fils de vieux ou je sais pas quoi. Et pour le coup, la formule est chez Camus, et quand je l'ai lue, je me suis dit, mais elle me va, hélas, comme un gant, on a honte d'avoir eu honte. Et on se dit, il faut que je rattrape ça. Et c'est pas possible. Et de fait, c'est pas tout de suite que j'ai compris. Je suis un peu passé à côté de mon père à cette période-là. Comme mon père n'était pas très démonstratif, je pense qu'on a perdu 15 ans, là, peut-être une quinzaine d'années pendant lesquelles il aurait pu m'apprendre le jardinage, des choses. On aurait pu faire des choses ensemble. Et puis, il m'aurait transmis des savoirs. Déjà, il m'a transmis tellement de beaux savoirs quand j'étais enfant que peut-être adolescent, ça aurait été bien. Mais bon, mon père avait ses souffrances. Avait ses douleurs à cette époque-là. Et puis moi, je suis parti très vite. J'étais donc 4 ans en pension, puis après 3 ans en pension, puis après je suis parti à la fac, j'avais 17 ans. Donc, le vrai contact s'est fait un peu plus tard.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Mais puisqu'on parlait d'estime de soi et le parcours biographique est intéressant, avez-vous déjà eu un enjeu sur cette question de l'estime que vous aviez pour vous-même, l'avez-vous construit ou vous aviez cette énergie vitale, peut-être, cette confiance qui échappe à certains?
Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je n'ai pas une grande estime de moi.
Vous le dites, je vous crois, évidemment.
Oui. Non, je suis pas de ceux qui pensent que tout est acquis, tout est gagné, que je suis, je sais pas quoi, formidable, fantastique, merveilleux, je sais pas quoi. Non, je crois que tout reste à faire, tout reste à construire et que, alors je peux théoriser sur l'estime de soi, je peux expliquer comment il faut faire pour gagner l'estime de soi, pour ne pas la perdre, pour la reconstruire ou je ne sais quoi. L'estime de soi suppose qu'on soit capable de s'arrêter en disant je juge mon travail. Et pour l'heure, je ne fais pas ça.
Son travail ou ses rapports avec les autres aussi?
Tout. Oui, vous avez raison. Son travail, son œuvre, ce qu'on a fait de sa vie, etc. Mon père m'avait dit que l'essentiel, c'était effectivement de creuser son sillon droit et profond. Et je pense qu'il avait raison, et c'est ce que j'essaie de faire. Et l'estime de soi, ce serait de dire, je m'arrête tous les 3 mètres en disant, oh, ouais, qu'est-ce qu'il est profond, mon sillon, qu'est-ce qu'il est droit, ou je sais pas quoi. Et ce serait pas élégant, ce serait pas bien de ne faire que ça. Et donc, même aujourd'hui, je me dis, j'ai 65 ans, je pourrais dire, ah bah, après tout, t'as bien le droit de juger ce que t'es devenu jusqu'à 65 ans. Non, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, c'est probablement pas à moi de faire ça. Et... Alors je ne me mésestime pas non plus, je ne dis pas non plus, c'est la question de la juste estime de soi, je ne crois pas être plus que ce que je suis, pas non plus moins que ce que je suis, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, je sais ce que je fais, je sais ce qui reste à faire, et je me dis l'estime de soi, il faut qu'elle permette de se supporter, de vivre avec soi-même, de pas être énervé par soi-même. Il y a des moments où Onfray est énervé par Onfray, où on va parler comme Rousseau, Michel est énervé par Onfray, ou Onfray est énervé par Michel, où on se dit, oh, je suis fatigué de faire ce que je fais, par exemple, l'intellectuel. Vous avez dit tout à l'heure, fort justement, que l'intellectuel a tendance à écraser le philosophe, ou même pas à écraser, à l'effacer totalement.
À lui voler la vedette.
Oui, en disant, on le voit trop à la télé, donc c'est pas les livres de philo qu'il fait ne sont pas des livres, ils ne sont pas des livres de philo. Ou même mes poèmes, par exemple, mon travail poétique, ou mon travail d'écriture sur les artistes. Donc il y a des moments où on se dit, bah, c'est de ta faute, t'as qu'à faire moins le pitre à la télé, etc. De fait, oui. Mais je vous dis tout à l'heure, je vous le disais, mais l'injustice m'insupporte et c'est pas en écrivant des haïkus qu'on lutte contre l'injustice. Si vous voulez la dénoncer, l'injustice, bah, il vaut mieux être sur un plateau de télé plutôt que d'écrire un livre sur un xième livre, parce que je sais aussi faire ça sur, je sais pas quoi, sur la servitude volontaire chez La Boétie, ou sur la dictature chez Orwell, ou sur le totalitarisme chez Huxley. Je peux faire des livres sur tout ça, mais je pense que ça suppose aussi qu'on puisse aller faire entendre une parole qu'on n'entend pas forcément dans les médias, où quand même, les médias sont quand même la propriété d'un certain nombre de gens qui diffusent un discours dominant, et si on n'a pas un discours dominant, je me dis, devoir d'y aller. J'y vais par devoir. Alors, on n'est pas obligé de me croire.
De résistance à ce discours dominant.
De dire ce qui me permet d'entendre parfois dans la rue, peut-être vous pouvez témoigner, on a marché un peu dans la rue, des gens qui m'arrêtent et qui me disent « Ah, c'est bien, continuez, on entend des choses qu'on n'entend pas par ailleurs, vous défendez notre position, ceci, etc. etc. » C'était assez drôle, quoi. Il y a quelques jours, j'étais sur le marché, et il y a des jeunes qui distribuaient. Alors il y a un quartier du marché où c'est assez Afrique du Nord. Et il y avait des gamins qui distribuaient des tracts pour Bardella. Et alors il me dit, ah monsieur Onfray, un tract. Je prends le tract de Bardella. Je fais 5 pas et je me retrouve avec un monsieur qui me court après, musulman. Qui me dit, ah monsieur Onfray, on peut faire une photo, j'adore ce que vous dites, parce que ce que vous avez dit l'autre jour, etc. Et je me suis dit, bon, cette idée qu'on puisse avoir ça en moins de 3 minutes, quoi, moins de 5 minutes, eh ben c'est que finalement je dois pas forcément faire mal mon travail, si effectivement, moi j'aime bien réconcilier les gens, j'aime pas les fâcheries, j'aime pas ces choses-là. Beaucoup de gens disent, ah mais ils se fâchent avec tout le monde. Non, on se fâche beaucoup avec moi. Mais moi je prends rarement l'initiative de la fâcherie. Je suis un peu raide, je suis un peu psychorigide, j'ai des principes et je fais savoir que bah, les principes ont peut-être pas été respectés et puis ça fait que des gens disent « Oh, tu nous emmerdes » et puis ils s'en vont et puis ils se fâchent et disent « Ils se fâchent avec tout le monde ». Moi, je crois pas. J'ai en revanche le fantasme un peu gaullien de dire « Mais si nous pouvions un peu nous entendre, quoi ». Un coup, c'est l'euthanasie, faut être pour, faut être contre. Une fois, c'est l'avortement, faut être pour, faut être contre. Une fois, c'est le Hamas, faut être pour, faut être contre. Une fois, c'est la Russie, faut être pour, faut être contre. Mais est-ce qu'on pourrait un peu de subtilité, un peu de pensée, un peu de réflexion, ça nous permettra le jugement ensuite, après. Et c'est un peu ce que j'aime faire sur le terrain intellectuel, parce que je pense que c'est assez peu fait.
Semer la zizanie en proposant le gris. Parce que, effectivement, c'est binaire aujourd'hui. On est pour, on est contre, mais entre les deux, il n'y a aucun espace de négociation.
Ah non, je me déteste le gris, moi. J'aime bien le noir et le blanc. Mais que le noir puisse parler au blanc et le blanc puisse parler au noir. Quoi qu'on puisse dire, mais reprocher aux gens qui tractent pour Bardella ce que vous pouvez lui reprocher. Le reprocher à ces jeunes. Mmh. Et puis voilà. Mais pas que c'est le nazisme ou je sais pas quoi. Et puis, ce monsieur qui me dit des choses gentilles parce qu'il est musulman, puis il me dit vous êtes le seul à parler de, etc., etc. Enfin, je me dis, mais quel plaisir de s'entendre dire ça. Mes élèves me disaient en fin d'année, j'étais 20 ans prof. Ah, ce qui est bien, monsieur, avec vous, c'est qu'on sait pas si vous croyez en Dieu ou si vous ne croyez pas. On sait pas si vous êtes de droite ou si vous êtes de gauche. Et on pouvait pas me faire plus plaisir. Parce que.
Je le conçois très bien.
Alors que bon, on sait, on connaît mes positions.
Que vous êtes athée de droite.
si vous voulez. Il y a un bouquin qui vient de paraître, et qui vraiment pas mal du tout, et qui parle, alors c'est une espèce d'école, il donne quelques noms, dont le mien, et qui parle de conservateurs de gauche. Alors ça me va absolument. Mm-hmm. Très heureux d'être tombé sur ce... D'abord, c'est un oxymore. Et puis ensuite, cette idée qu'on puisse être, oui, un conservateur de gauche, en disant, oui, moi, j'étais de gauche dans les années 80 pour des idées qui sont restées les miennes. Je pense toujours, je ne pense pas qu'on puisse être de gauche et louer des utérus et vendre des enfants, par exemple.
Mais c'est un oxymore dans la mesure où on accepte que la gauche a comme horizon indépassable la progression tous azimuts et à tout prix. Or, c'est pas toujours le cas, non?
Non, c'est pas ça, la gauche, pour moi. La gauche, c'est la sensibilité politique, j'allais dire poétique, mais qui a le souci du peuple, des gens simples, des gens modestes, des gens les plus défavorisés. C'est le gamin que j'étais qui dit je n'oublierai pas l'humiliation qu'ont subi mes parents. Et c'est de dire, aujourd'hui, une femme qui loue son ventre, son utérus, c'est pas une femme qui dit j'adore ça. C'est une femme qui dit j'ai besoin de vivre, quoi, j'ai besoin d'argent, et je suis du côté de cette femme. Et les gens qui disent nous on a du fric et on va mettre 300 000 euros pour acheter un enfant, je suis pas de leur côté. Alors après, il se peut que cette dame qui loue son utérus, elle soit de droite et qu'elle vote Marine Le Pen, et que l'acheteur de l'enfant, il soit de gauche, de la gauche caviar, etc. Après, c'est plus mon problème, cette gauche-là et cette droite-là.
Mais c'est un nouveau lumpen prolétariat, en fait.
Bien sûr. Et je suis de son côté. Et je pense effectivement que cette façon, par exemple, de jouer l'immigration contre le prolétariat français, c'est mauvais pour les deux. C'est mauvais pour les migrants qu'on accueille mal, et c'est mauvais pour les prolétaires dont on détruit la vie. Et c'est, pour moi, c'est ça être de gauche. C'est, on peut pas dire plus de misère encore pour que les miséreux soient plus miséreux encore. Je comprends pas qu'on puisse dire ça. Il y a un moment donné, il faut avoir le souci des paysans qui se pendent, des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Enfin, c'est ça ma gauche, ça reste ça ma gauche. Et que effectivement on puisse être conservateur, moi j'aime bien que le mot conservateur puisse caractériser aussi des gens qui dans les musées font de telle sorte qu'on met pas le feu à une toile de Rembrandt. En disant, on fait très attention, quoi. On fait à l'hygrométrie, à la température, à la luminosité. Il faut absolument qu'on préserve les œuvres. Ça s'appelle un conservateur. Moi j'ai envie qu'on conserve ce dont on a parlé tout à l'heure, Zola, Maupassant, ou la musique de Debussy ou de Mozart, et que du passé nous ne fassions pas table rase.
Ce qui est souvent antithétique avec cette idée du progrès tous azimuts, qui s'arrange très bien avec l'idée qu'il faut effacer la mémoire pour bien apprécier les horizons qui nous contemplent.
Oui, mais ce que n'ont pas compris ces gens-là, c'est que même dans le cancer, il y avait des progrès. Et que le progrès, c'est pas une valeur, c'est pas une vertu. Des fois, on dit, oulala, il y a des marqueurs, là, votre cancer a progressé. Donc, le progrès, c'est pas terrible. Dans ces cas-là, on a envie qu'il régresse et vive le cancer qui régresse. Et il y a des moments où, moi, j'ai envie que ce cancer civilisationnel régresse.
Mais
et que
le
les
cancer
marqueurs soient bons.
Le cancer civilisationnel dont vous parlez, c'est exactement ce qui nous animait il y a quelques minutes quand on parlait de l'estime de soi. Il y a une absence d'estime de nous, collectivement, de nous civilisationnels.
Ah oui, enfin, ça dépend où. C'est-à-dire que si vous visitez le salon de l'agriculture, vous avez plein de gens qui ont une vraie estime d'eux-mêmes. J'y étais il y a quelques temps, là, et j'en ai vu des gens qui avaient une belle trogne, une vraie gueule, enfin, qui avaient la tête de leur taureau, de leur vache, et je dis ça sans mépris, hein, entendons-nous bien, c'est les taureaux qui étaient là, c'était des œuvres d'art. Et je me disais, voilà les gens que j'aime. Et ils étaient contents, ils étaient fiers, ils nettoyaient leurs animaux, ils les pansaient, ils les brossaient, ils tressaient les poils de la queue, de la crinière, ce genre de choses. On se dit, non, il n'y a pas de chevaux. Mais il y avait des animaux magnifiques. Et là, il y a une estime de soi. Après, il n'y a même pas l'estime de soi chez celui qui, peut-être, 8 jours plus tard, est rentré chez lui et s'est pendu. Parce qu'il était endetté.
Désespéré.
Et qu'il était désespéré. Et puis après, il y a l'estime de soi française. On a un chef de l'État qui travaille à la haine de nous-mêmes. On a un chef d'État qui n'aime pas la France, on a un chef d'État qui nous dit il n'y a pas de culture française, on a un chef d'État qui, dès qu'il s'agit de choisir quelqu'un pour incarner la France, cherche quelqu'un qui va montrer la créolisation à l'œuvre. C'est bien, moi je suis très heureux qu'on puisse avoir des gens de couleur. C'est bien aussi qu'on en ait qui ne soient pas de couleur, parce qu'il y a un moment donné où c'est bien que les minorités soient présentées comme majoritaires, mais c'est bien que les majorités puissent aussi exister même comme minorités. Et donc il y a un moment donné où on a envie de ce genre de choses. Donc l'estime de soi, le président de la République n'y travaille pas.
Mais c'est pas français.
Pardon.
Ce n'est pas que français. C'est-à-dire que cette, j'ose pas employer le mot détestation, mais peut-être irez-vous jusque-là, cette détestation de ce que nous sommes, c'est, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, mais c'est un mal occidentale, c'est-à-dire que ce n'est pas que la France, on le voit ailleurs aussi.
Écoutez, j'aurais du mal à vous répondre parce que je sais pas comment ça se passe au Portugal, par exemple, ou au Benelux. Je sais pas du tout. Mais je pense que nous, en France, on est assez doués pour la détestation de soi. Nous n'avons fait que Vichy, nous n'avons fait que la collaboration. Et d'ailleurs, récemment, quand le président de la République, Panthéonisme, Manouchian et son groupe, c'est juste pour nous expliquer que heureusement qu'il y avait des juifs étrangers pour résister, parce que quand même, sinon, il y aurait pas eu de résistance. On se dit, bah, il y a le général de Gaulle quand même, le 18 juin 40. Et puis quand même, les communistes à l'époque, il y a le pacte germano-soviétique, ils collaborent pendant 2 ans. Donc peut-être qu'on aurait pu choisir, pour montrer que la résistance avait été heureuse, des gens qui n'ont pas résisté simplement quand Hitler est rentré en Union soviétique. Donc il y a juste un moment donné où on se dit, quand on a un chef de l'État qui ne choisit que des occasions de séparer, que des occasions de détester, que des occasions de mettre de l'huile sur le feu. On se dit, mais c'est pas comme ça qu'on va réconcilier les Français. Donc on peut choisir d'autres symboles, d'autres emblèmes que des emblèmes qui divisent.
Alors quel dessin derrière ce plan de division?
Je pense que Emmanuel Macron et tous ses copains maastrichtiens depuis 1992 et Mitterrand, c'est-à-dire que pour moi c'est pas une affaire de droite et de gauche, c'est une affaire de souverainiste ou d'anti-souverainiste. Merci au Québec de nous avoir offert ce beau mot souverain, souveraineté, souverainiste, ces beaux mots, mais c'est de dire on a la possibilité de soit d'être autonome, indépendant et souverain, c'est-à-dire la possibilité de contracter avec d'autres pays, de fabriquer une Europe des nations, soit de dire non mais les nations, faut dépasser tout ça, et il faut une espèce de grand empire qui est l'empire européiste, avec son drapeau, avec son hymne, avec sa monnaie, et donc tout ce qui peut être nation, ça s'appelle du nationalisme, et tout ce qui est nationalisme, c'est la guerre. C'est faux. Et ben parce que Mitterrand, qui a été décoré des mains du maréchal Pétain, de la Francisque, nous dit une sottise pareille, qu'il faut absolument y souscrire. Les guerres se sont faites au nom des empires. Quand la Première Guerre mondiale se fait, c'est pas du tout l'Alsace-Lorraine qui est en jeu. Ce sont les survies des empires. Et l'Empire ottoman, l'Empire allemand, austro-germanique, enfin austro-hongrois, pardon, l'Empire français, etc. Tout ça s'effondre. Et je pense que la nation, c'est ce qui permet de résister à l'impérialisme. C'est ce qui se voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'Ukraine. L'impérialisme russe, qui répond à l'impérialisme américain, a pour enjeu la nationalité ukrainienne. Est-ce que l'Ukraine doit faire partie de l'OTAN, d'une certaine manière, ou de la Russie, ou du pacte de Varsovie.
Et qui n'existe plus quand même.
Quoi donc ?
Le pacte de Varsovie.
Dans l'esprit, si. Bien sûr, vous avez raison, il n'existe plus. Mais c'est justement quand il a cessé d'exister que des choses ont été dites. Du genre dissolution du pacte de Varsovie, mais en même temps, une espèce de glacis général, on touche à rien. Et bah oui, bien sûr, on touche à rien, puis on touche quand même à quelque chose. Et puis les États-Unis commencent à avancer leurs pièces, etc. Et Poutine dit non, jusqu'à un moment donné où on voit ce que ça donne. Donc moi, je pense que les nations préservent des impérialismes. Je ne veux pas de l'impérialisme américain et je ne veux pas de l'impérialisme russe. Pas plus que je ne voudrais de l'impérialisme iranien. Qu'on entende bien ce que je veux dire, je pense effectivement qu'il y a un impérialisme iranien avec la question musulmane sur la planète entière. Je ne veux pas non plus d'impérialisme chinois. Je ne veux pas que nos épiceries soient remplies de tous les brimborions chinois qui sont vendus 1 euro, etc. Je crois qu'il y a la possibilité, ben justement, c'est ça, être souverain, de dire que la France peut faire mieux que ça quand même.
Intéressant que vous parliez de cette possibilité d'un impérialisme iranien. Moi, je suis d'avis que dans les dates du précédent siècle, a marqué 1979 comme année clé, probablement davantage que l'effondrement du mur de Berlin. Je pense que l'Iran est l'événement dont on ne parle pas et qui bouleverse profondément nos vies.
Complètement. Totalement d'accord avec vous. Et c'est aussi le moment de la naissance de l'islamo-gauchisme, avec un Michel Foucault qui, mandaté par le Corriere della Sera, s'en va sur place, ne connaît rien à l'islam, est incapable de savoir ce qui distingue un chiite d'un sunnite, et a lu Maxime Robinson, c'est-à-dire que pour lui, l'islam, c'est ce qu'on lit dans la... C'était pas forcément cet islamologue, peut-être pas forcément... Non, c'était Henri Corbin. Il lit Henri Corbin, et il pense que l'islam, c'est ça. Et il commence à nous dire, ah là là, le retour de la spiritualité dans la politique, c'est formidable, qu'est-ce que c'est bien, etc. Et on se dit, mais tu rigoles ou quoi? C'est-à-dire que tu as lu le Coran un peu, des fois, pour nous expliquer que c'est le retour de la spiritualité. C'est le retour de la phallocratie, de la misogynie, de l'antisémitisme, et c'est ça que tu défends, Michel Foucault? Et oui, parce que effectivement, c'était lutter contre l'impérialisme américain. Le Shah d'Iran, c'était les États-Unis. D'ailleurs, c'est faux, puisque les États-Unis ont lâché le Shah d'Iran et ont placé quand même l'Ayatollah Khomeini. Mais vous avez raison, c'est une date majeure. Date majeure également, le silence de l'Occident quand Salman Rushdie est condamné à mort. La fatwa, rien, on dit rien. Il y a même des intellectuels français qui disent oh, il a un peu cherché, Salman Rushdie, il a quand même un peu cherché. Chirac, le premier, qui nous dit quand même il aurait pu se dispenser d'écrire les versets sataniques. Et à partir de ce moment-là, vous avez raison, c'est un rouleau compresseur et ça avance. Et ce qui se passe aujourd'hui en Israël, le Hamas et le Hezbollah sont en relation avec l'Iran. La Russie est en relation avec l'Iran. La Chine, la Russie sont en relation avec l'Iran, qui lui-même est en relation avec le Hamas. Donc tout ça se tient tout de même. Et avec une espèce de complaisance des islamo-gauchistes aujourd'hui, les Mélenchon, la France insoumise, l'extrême gauche, qui laissent faire tout ça en estimant que finalement on peut travailler à la destruction de la République, à la destruction de la démocratie. Et voilà pourquoi Macron et ceux qui défendent tout ça veulent effacer la France, veulent effacer la nation, veulent effacer la République.
Est-ce qu'au nom d'une résistance à ce que vous qualifiez d'islamo-gauchisme, on se doit, d'un point de vue occidental, de soutenir envers et contre tous Israël?
Ça dépend ce que vous appelez envers et contre tous.
Parce que j'ai de sérieuses réserves sur la manière avec laquelle les choses sont faites, par exemple, à Gaza en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a encore une proportionnalité? Est-ce qu'on est encore...
Alors, c'est quoi la proportionnalité? Je rappelle qu'il y a encore une centaine d'otages.
Oui.
Donc,
mais
qu'est-ce qu'il fait? Alors,
Israël
on dit 134...
avait dans ses geôles aussi beaucoup de gens qui étaient retenus sans aucune forme d'accusation formelle portée. Alors, je fais pas de parallèle entre les conditions de détention, quoique, de Palestiniens en Israël et de ceux qui ont été kidnappés et ramenés de force sur le territoire de Gaza. Mais je me pose la question, est-ce que au nom de l'éradication du Hamas, on peut se permettre tout?
Alors, le Hamas a le désir d'éradiquer Israël et se permet tout. Donc c'est pas Israël qui a dit on va attaquer le Hamas. Le Hamas a dit on attaque Israël, des femmes, des enfants, des vieux, on massacre tous ces gens-là. Et dans le projet sociétal du Hamas, il y a la destruction de l'État d'Israël. Je veux bien qu'on dise...
Ils ne reconnaissent pas Israël?
Non. Ils ne parlent même pas d'Israël, ils parlent de l'entité sioniste. Et ça fait partie du projet du Hamas de recouvrer la totalité des terres israéliennes, puisque du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, ils veulent que ce soit une terre entièrement palestinienne. Donc avec destruction de l'État d'Israël, l'entité sioniste. Je rappelle quand même que depuis plus d'une dizaine d'années, la bande de Gaza est autonome. Et que les Israéliens ont quitté la bande de Gaza.
Est-ce qu'on est autonome? Non, on ne contrôle pas l'électricité, l'eau.
Bien sûr que si, ils contrôlaient tout. Et quand ils ont récupéré beaucoup d'argent et qu'ils ont fait des kilomètres de souterrain, c'était pour faire quoi? Ça s'appelle une économie de guerre. C'est très exactement ce que fait Hitler en 1933 et qui le conduit en 1939, puis en 1940, et on connaît l'histoire, d'entrer en Pologne, d'envahir la France, etc. On ne peut pas dire que ces gens qui préparent la guerre sont juste là dans une logique pacifiste, puisqu'ils disent 1, on veut détruire Israël, 2, on prépare la guerre, et 3, on y va. Ils ont déclaré un certain type de guerre, Israël mène la guerre. Bon, voilà. Moi, j'ai pas les informations dont dispose Netanyahou. Je ne suis pas sûr qu'effectivement ce soit imaginable de détruire le Hamas en détruisant des populations civiles sur la bande de Gaza. Ça, effectivement, je pense qu'on peut... dès à présent, dire bon, peut-être que maintenant, voilà, il y a eu ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce qui s'est passé, elle devait se passer et qu'il fallait que ça se passe ainsi. Et que peut-être aujourd'hui, il faut penser en termes de paix. Maintenant, avec qui? Comment? De quelle manière? Je ne pense pas à la possibilité des deux États palestiniens, palestiniens-israéliens. Je pense que Camus nous avait donné la solution avec un État fédéral. Je pense qu'il faut trouver des interlocuteurs. Je pense qu'on ne peut pas faire la paix avec des gens qui disent on veut vous détruire totalement. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est armé avec une mitraillette, avec des couteaux, et qui dit « mais je vais vous assassiner dans la seconde où je peux vous mettre la main dessus, je vais vous tuer », vous n'allez pas dire « bon, on va parler de la paix ». C'est pas comme ça qu'il faut faire, je pense. Vous allez faire de telle sorte que vous puissiez neutraliser celui qui veut vous tuer, ça s'appelle de la légitime défense. Et il y a un moment donné où on peut dire « bon, la légitime défense ayant donné ses limites », parce que je pense que si on veut détruire le Hamas et qu'on fabrique le Hamas, parce qu'il y a un moment donné où
Aussi, c'est-à-dire qu'on a bien nourri le Hamas.
Mais bien sûr, vous avez raison. Et d'ailleurs, en le créant, contre le Fatah. en pensant que quand on aurait effectivement deux instances. Je suis entièrement d'accord, mais ça, si on fait de la politique, on va trouver des erreurs partout.
Et je reviens partout à ce que vous disiez sur...
Je finis juste pour dire que si effectivement on veut en finir avec le Hamas et qu'on détruit des populations civiles, ce qu'on va faire, c'est nourrir le Hamas. Donc il y a un moment donné où la question stratégique, elle est là, c'est on ne peut pas dire que... On fait le nécessaire pour qu'il n'y ait plus de Hamas, en faisant de telle sorte que le Hamas puisse durer avec des gamins qui, moi, je pense évidemment que des gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, ces gamins-là, ils vont rentrer au Hamas en disant non, on entre dans cette guerre, etc. Donc, il y a un moment donné où, de fait, on peut comprendre la vengeance, je rappelle qu'il y a toujours quand même des otages. Je rappelle qu'il y a toujours des otages, hein. Et que, peut-être, il faut, alors là, pour le coup, des gens qui soient susceptibles de faire la paix. Mais qui? Sûrement pas Macron. Qui est susceptible de faire la paix? Et en donnant quoi à qui? Vous savez bien que quand on arrête la guerre, il faut bien donner à chacun ce qui va permettre de le calmer. Qu'est-ce qu'Israël peut donner? Qu'est-ce que les Palestiniens peuvent donner? Qu'est-ce que le Hamas peut faire? Qu'est-ce que le Fatah peut faire? Qu'est-ce que Mahmoud Abbas peut faire? Qu'est-ce que... etc. etc. Tout ça est à mettre sur la table pour pouvoir envisager la paix. Il n'y a pas de guerre qui ne se soit jamais terminée.
Donc celle-là dure depuis 75 ans, parce que c'est une guerre à basse intensité.
C'est une guerre qui a 3000 ans.
Bien vu, mais disons dans l'histoire politique plus récente, disons 47 avec la déclaration des Nations Unies, 48 avec la création de l'État d'Israël. Et à ce jour, je constate que c'est insoluble.
Alors si vous remontez aussi loin, vous avez bien raison, mais à ce moment-là, rappelons que le grand moufti de Jérusalem était un collaborateur d'Adolf Hitler, et que les Palestiniens à l'époque avaient pris le parti d'Adolf Hitler, que le grand moufti de Jérusalem est allé prêcher dans une mosquée à Berlin, et qu'il a eu des relations avec Adolf Hitler, et que c'est lui qui disait « n'oubliez pas les enfants juifs ».
Parce que à ce moment-là, il pensait probablement aussi que d'un point de vue tactique et probablement même stratégique, c'était le meilleur moyen de se débarrasser de l'Empire ottoman.
De se débarrasser des Juifs, vous voulez dire. Donc il y a un moment donné où, quand le personnage qui dit « Adolf Hitler est mon ami », et qu'il se retrouve avec un Adolf Hitler qui a perdu au Mondialta, il y a une découpe du monde, comme vous le savez. Et donc, il y a des gens qui n'y sont pas. Évidemment, le grand moufti de Jérusalem ne s'y trouve pas. Et le général de Gaulle ne s'y trouve pas non plus à Yalta. Et pourtant, le monde est découpé. Et il y a un moment donné où, dans cette découpe, on dit « Eh bien, il va y avoir un territoire qui va s'appeler le territoire d'Israël ». Ça s'appelle des dommages de guerre. Je veux bien que effectivement on dise ça a 75 ans, ça a 3000 ans, c'est eux qui ont commencé, ils n'avaient pas besoin d'avoir des prisonniers palestiniens sans jugement et c'est bien normal qu'on égorge des enfants.
Ah non, il y a personne qui a dit ça entre vous et moi.
Vous avez dit quelque chose tout à l'heure en disant d'une certaine manière, il y avait des prisonniers politiques palestiniens qui étaient là dans des prisons, peut-être avec des situations...
Dans des conditions de détention qui sont certainement difficiles et contre lesquelles il n'y a aucun chef d'accusation. Alors, est-ce que ce sont des otages? J'en sais strictement rien, des prisonniers politiques.
Décapiter des personnes âgées ou d'éventrer des femmes enceintes, même si vous manquez de toilettes dans votre chambrée ou que la nourriture est tiède, c'est pas comparable. C'est pas comparable. On n'égorge pas dans les prisons.
Moi, je discute avec vous. Je suis pas en train de faire le procès de quiconque.
Moi, je discute aussi avec vous en disant que si on fait vraiment de l'histoire, vous avez raison, c'est brutal l'histoire. C'est violent, la politique. C'est pas du tout des choses gentilles. Vous avez des gens qui veulent en égorger d'autres et des gens qui, pour ne pas se faire égorger, égorgent aussi
et
à leur tour.
Et les rapports de force finissent par imposer les solutions politiques.
Oui, vous avez plus de 50 pays musulmans de la planète. Il n'y en a aucun qui veut accueillir les Palestiniens. Vous avez avez Israël qui est gros comme un département français et la totalité des pays du globe, plusieurs milliards d'habitants veulent en finir avec combien 900 000 je sais pas combien il y a d'habitants en Israël, mais on se dit
7 millions.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez accepter qu'Israël puisse exister? Ça, c'est pas possible, ça, qu'ils puissent vivre tranquillement sur un bout de terre. Non, on veut les détruire. On veut détruire l'entité sioniste, selon l'expression consacrée. Bon, moi, je comprends très bien qu'éventuellement un gouvernement puisse dire, des gens qui nous disent notre seul objectif, c'est de vous tuer. On n'est pas en vie. Vous voyez l'exemple que je vous prenais tout à l'heure. Vous avez quelqu'un dans la rue qui dit, moi, de toute façon, j'ai le projet de vous tuer dans les 10 minutes qui suivent. Et je suis armé, et j'ai un couteau, etc. Et vous dites, bon, on va s'asseoir, on va discuter, puis on va essayer de... Peut-être que ce monsieur, son papa, il était alcoolique, et sa maman est prostituée, il va falloir comprendre, et puis peut-être que... Non, vous dites juste, ce type veut me faire la peau, il veut me tuer, et je fais quoi? Donc, effectivement, vous dites, je vous massacre, puis à un moment donné, vous dites, ah, peut-être que là, il y a deux ou trois coups un peu en trop, maintenant, ça va, il est par terre, vous pourriez peut-être arrêter, puis vous continuez à taper. Il peut dire, bon, calme-toi, etc. Il y a un moment donné où on peut pas déclencher, faire couler le sang, ça pue le sang. quand vous sentez le sang, il y a un moment donné, ça appelle le sang. Et quand des gens, enfin, vous avez vu les images, tout le monde a vu ces images, il y a un moment donné où vous dites, mais qu'est-ce qui peut justifier ça?
Alors, soluble ou non, justement, quand ça pue le sang de part et d'autre, oui. Et que chacun des camps est convaincu d'avoir raison, oui. Parce que ça aussi, alors, c'est une vérité.
Moi, j'adore les peuples. J'adore le peuple juif et j'adore le peuple palestinien. Et je déteste les gouvernants. Tous les gouvernants, quels que soient les gouvernants. Et quand il m'est arrivé de me retrouver un matin à Tel Aviv, et dans mon lit, au réveil, je suis réveillé par l'appel du Muezzin. Je veux que les gens sachent que quand on est à Tel Aviv, il y a des mosquées, qu'on peut vivre sa vie de musulman, et qu'il y a l'appel du Muezzin en plein Tel Aviv. Je rappelle que quand je suis allé dans les territoires qui sont, j'allais dire, occupés par les Palestiniens, ou que les Palestiniens pilotent, il n'y a pas de synagogue. Et dans ces endroits même où je me suis trouvé, j'ai vu à un moment donné, de mes yeux vus, sur un bâtiment le drapeau palestinien et sur le bâtiment d'en face le drapeau israélien. Je rappelle qu'en 1942, c'est assez peu probable que de rue de Rivoli, vous ayez un drapeau nazi et de l'autre côté de la rue, un drapeau bleu-blanc-rouge avec la croix de Lorraine. C'est pas exactement la même chose. J'ai vu des soldats israéliens dans des territoires palestiniens qui étaient comme des Robocop et qui étaient là avec un portail. Ils étaient en train de garder un portail magnétique et deux gamins qui sont arrivés, un qui était dans un caddie, l'autre qui poussait et ils sont allés vers le portail. Je me suis dit, mais il va se passer quoi? Mais il va se passer quoi avec tout mon imaginaire fabriqué par France Inter et le service public, etc. Je me suis dit, ces deux petits, ils baignent dans leur sang dans la minute. C'est évident, quoi. Ils ont foncé sur le portail, ils ont traversé le portail, ça s'est mis à faire des bip, 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 bip. Qu'a fait le soldat israélien? Rien. Rien, les gamins, ils jouaient, ils ont traversé, ils ont passé, etc. Voilà. J'étais là avec des pro-palestiniens qui m'ont dit, attention, attention, il y a des juifs là-bas, c'est des intégristes. Alors ne les regardez pas quand ils vont passer, parce que si vous les regardez mal, ils sont armés. Et ils sont capables de vous tuer. Donc vous les regardez pas, hein. On est entre nous là, et puis on se parle, etc. Et le groupe de juifs qui passe s'approche, il se fait que c'était des Français, ils nous ont entendu parler français, et ils nous ont dit quoi? Bonne journée, bon voyage, bon séjour, etc. Voilà. Deux secondes avant, on nous disait attention, ils peuvent vous égorger, ils sont passés de manière très pacifique, etc. Donc je pense qu'il y a des cinglés.
Est-ce que l'anecdote ou les anecdotes font le réel?
Oui, ça n'est que ça le réel, c'est une somme d'anecdotes. C'est-à-dire que quand vous écoutez les hommes politiques, ils vous disent tous des sottises. Et vous allez regarder, et vous regardez les peuples, ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Et vous avez quelques abrutis, les colons israéliens, qui s'installent ostensiblement dans des endroits, qui détruisent des oliviers, qui humilient des Palestiniens, et qui tuent aussi des gens. Je vous donne le point sur ce sujet-là, oui.
Mais ne donnez aucun point, parce qu'entre vous et moi, on parle de quelque chose qui nous dépasse largement.
Mais parce que je pense que si effectivement on faisait l'économie des chefs, et qu'on se soucie des peuples, on n'aurait pas les mêmes politiques. Et que y a plein de gens qui ont envie de la paix. Il y a des Palestiniens qui veulent la paix. Il y a plein de femmes qui veulent enlever leur voile. Il y a plein d'hommes palestiniennes. Il y a plein d'hommes palestiniens qui ont envie de vivre leur homosexualité. Il y a plein de transsexuels à Gaza qui ont envie de boîtes de nuit dans lesquelles on pourrait écouter des chansons occidentales, etc. C'est pas les Palestiniens, c'est pas le Hamas. C'est comme si on nous disait la France, ce sont les Macroniens. Ben non. Et moi, j'ai un souci du peuple palestinien. J'ai un souci des Palestiniens, mais pas du Hamas, mais pas des gens qui veulent imposer une théocratie. Vous aviez raison d'estimer que c'était dangereux d'avoir laissé l'ayatollah Khomeini piloter l'Iran. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui pilotent le Hamas, ce sont les mêmes qui pilotent la bande de Gaza. Alors on ne va pas dire c'est dangereux en Iran, mais en même temps ce serait tout à fait défendable au Hamas. Je pense qu'on a besoin de démocratie là-bas.
Au départ de cette longue digression qui vous a passionné et enflammé, c'était cette idée, doit-on, dans une perspective de résistance et de valeur qui seraient les nôtres, soutenir envers et contre tous Israël.
Bon, la réponse est non. Je crois qu'il faut arrêter les guerres.
Parce qu'on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure.
Une réponse brève. Je veux dire qu'il y a eu un temps pour la vengeance, la colère, la riposte. Et de la même manière que vous pouvez imaginer qu'un père à qui on a tué sa fille soit dans une espèce de violence incontrôlée, vous n'allez pas vous dire calme-toi, c'est pas la peine, etc. Il y a un moment donné où effectivement, un moment de décence, où vous pouvez dire oui, il y a une place pour la vengeance. Puis à un moment donné, on dit bon stop, maintenant il va falloir arrêter. Et il faut penser en termes de paix. Et là, je ne vois personne.
Et parce que justement, à répétition, Israël fait la démonstration de sa capacité à gagner toutes ses batailles. Mais sur l'horizon stratégique, je me demande s'ils ne sont pas en train de créer les conditions où il n'y aura jamais d'espoir de paix.
Ils perdront parce que je crois qu'il faut lire Clausewitz. et se souvenir que Clausewitz fait une théorie de la guerre, mais que dans ce très gros livre de 500-600 pages, il y a quelques pages à la fin en appendice qui relèvent de ce qu'il appelle la petite guerre. Et la petite guerre, c'est la guérilla. Et vous pouvez avoir une armée hyper technique, ce qui est le cas d'Israël, ce qui est le cas des États-Unis. Les États-Unis ont perdu avec le Vietnam aussi.
Avec l'Afghanistan, avec l'Irak.
Bien sûr, bien sûr. Et simplement parce que la guérilla aura toujours raison. Que quand vous avez un soldat qui tombe et qu'il y en a un deuxième qui arrive, puis un troisième qui arrive, et que ces gens-là pensent que, de toute façon, s'il meurt, c'est le paradis dans la minute, vous ne pouvez pas lutter contre ça.
Mais quelles que soient les modalités, on a choisi de trouver une solution en Irlande, on a choisi de trouver une solution en Espagne. Oui. Il faut arrêter. Alors, il faut être capable de s'asseoir et accepter qu'en luttant contre le terroriste, on ne lutte pas nécessairement contre le terrorisme.
Non, je pense que vous avez raison. Il y a un moment donné où il faut dire, bon, et maintenant la paix, quoi. Maintenant la paix, parce que vous avez des Palestiniens qui disent, bon, on va peut-être vous donner 10 otages, 20 otages, je sais pas, on va voir, ça dépend, puis finalement on vous les donne pas, et puis non, c'est pas possible que ça se passe comme ça, avec cette espèce de sadisme. Et puis voilà, même en France, il y a cette espèce d'insolence du chef de l'État qui fait comme si on n'avait pas des franco-israéliens qui sont des otages.
Trois.
Oui, trois ou quatre. Mais il y a quelque chose d'assez sidérant. Je pense qu'un chef de l'État, c'est quelqu'un qui dit, bon, maintenant, l'heure de la paix est arrivée, il y a un peu de décence, comment on s'y prend? Mais quand vous êtes Emmanuel Macron, vous rionnez. Et qui va régler le problème? Ben, probablement la Chine, probablement l'Iran, beaucoup l'Iran, et puis l'Arabie Saoudite et le Qatar, et puis un peu les États-Unis aussi. Donc tout ça va se jouer, et puis peut-être d'ailleurs que ce qui se passe actuellement à Gaza et ce qui se passe en Ukraine, c'est lié, et qu'il y a un moment donné où on dira, bon, on va faire ceci là, puis ailleurs tu fais ceci, puis etc. Ce sont les gros crocodiles de la planète qui gèrent un peu les affaires courantes, avec les peuples qui payent le prix fort. De fait, Gaza, les Palestiniens payent le prix fort. Et après, bah oui, vous avez des gens qui sont coupables, et puis vous avez des gens qui sont pas coupables du tout, puis vous avez des gens qui sont même très exactement à l'inverse, qui sont des Palestiniens pour la paix, et qui s'en prennent quand même sur la figure, etc. Ça n'est jamais une bonne idée, la guerre. Ça n'est jamais une bonne idée, la guerre.
Vous allez pardonner le pas de côté, mais peut-être qu'il est indiqué dans les circonstances. Vous parliez plus tôt des agriculteurs qui choisissent de mettre un terme à leur jour. Mmh. On a commencé en parlant philosophie. Vous aimez beaucoup Camus, qui disait il n'y a vraiment qu'un seul problème philosophique, c'est le suicide, avec lequel vous avez d'ailleurs, joué, ou la possibilité. Et vous dites, vous, il y a un lien, je vous vois le visage, mais où est-ce qu'il s'en va? Vous avez dit plus récemment, le seul véritable problème philosophique, c'est la question de la grâce. Mmh. Vous avez dit ça récemment. C'était peut-être une boutade, mais je trouvais que les liens entre Camus sur le suicide, vous, sur la question de la grâce, l'athée. Est-il possible, dans un monde où nos convictions religieuses semblent conditionner nos comportements les plus sauvages, est-il possible de trouver une forme de grâce qui fait qu'on arrive à se parler, même si apparemment tout nous divise?
Alors, quand j'ai parlé de la grâce, je pensais en termes de religion.
Mais j'ai bien compris.
Donc je disais, le seul problème essentiel, c'est la grâce en matière de religion. Parce que je pense que en dehors de la religion, ça pose pas de problème. Enfin, ça n'est pas un problème, la grâce. Je sais pas, sur la question de la politique, je pense pas que la grâce joue beaucoup. Non, c'est la question du croire en Dieu, ne pas y croire. Et sur cette idée de... Bon, j'ai écrit une théorie de Jésus avec certains énervés qui m'ont agressé. Enfin, peu importe les modalités de l'agression. Mais je me suis dit...
Parce que vous doutez du personnage historique.
Non, c'est pas que je doute. Je dis qu'il n'a jamais existé historiquement. Et j'en fais la preuve pendant 300 pages. Et j'appelle... Enfin, les gens qui critiquent ce livre disent que c'est n'importe quoi, que je sais pas quoi. Enfin, mais pas d'analyse. C'est-à-dire avec ce que je... Par exemple, juste un exemple pour les gens qui nous écoutent. Mais Jésus dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette expression se trouve dans un psaume 1000 ans avant l'existence même de Jésus. Je dis juste, expliquez-moi pourquoi.
Peut-être qu'il l'avait lu, puis s'est dit, tiens, c'est parfaitement d'occasion.
Au moment où on meurt, on a un bouquin 500 pages dans la tête, et on se dit, tiens, je vais faire une petite citation. Vous trouvez? Moi, je dis, Jésus n'existe que parce que finalement, l'Ancien Testament qui annonçait sa venue, permet à certains juifs de dire, c'est ne l'attendez plus, il va plus venir, il est déjà venu, d'ailleurs, il a fait ceci, il a dit cela, il s'est comporté comme ceci, il s'est comporté comme ça. 300 pages. Pour dire de la naissance jusqu'à la mort, tout est collage d'Ancien Testament pour nous expliquer que, effectivement, ce prophète est prétendument venu. Il n'est pas venu. D'ailleurs, serait-il venu qu'il y a ce qu'on appelle la parousie? Il nous dit, je meurs, mais je reviens de votre vivant. C'est le texte, oui. J'en appelle au texte. Et du vivant de Jésus, il n'est pas revenu, Jésus, que je sache. Ça fait
il fallait être très patient. Il fallait être très patient.
C'est ça. Et donc, j'attendais des débats de qualité avec des gens avec qui on aurait pu parler de parousie, avec lesquels on aurait pu parler du rôle de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, avec lesquels on aurait pu s'interroger sur le trait d'union qu'il y a entre judéo-chrétiens. Enfin, c'était ça la question. Et puis, en fait, ça n'a pas eu lieu. On a retrouvé une maison à Bethléem ou à Nazareth qui datait, donc elle date du 1er siècle, c'est-à-dire que c'est la maison de Jésus. On se dit, bon, bah, d'accord, oui, voilà. Une preuve de l'existence historique de Jésus, on a trouvé trois murs d'une maison dont on n'est même pas sûr qu'elle date du 1er siècle. Après ça, on nous dit, on a un suaire. Et le suaire, c'est bien la preuve que Jésus a existé puisqu'il a été enveloppé dans ce suaire. Et je dis à ces gens, mais écoutez, ce suaire, il a été daté et il est médiéval. Mais non, pas du tout, etc. Alors, un suaire médiéval, et il date du 1er siècle, et en même temps, le carbone 14, ça marche pas, parce que c'est un truc de comique et de guignol. Mais je lui dis, mais écoutez, moi, j'ai lu les évangiles, je vous rappelle qu'il n'y a pas de suaire dans les évangiles, il y a des bandelettes. Alors, expliquez-moi comment vous transformez des bandelettes en suaire. Des bandelettes, c'est des bandelettes, c'est pas un suaire. C'est-à-dire, ça fait pas, je sais plus combien, deux fois 1m80, je crois, puisqu'on plie en deux. Il y a pas de suaire. Il y a donc, est-ce qu'on pourrait avoir une discussion sur ce sujet? Et donc, il n'y a pas eu. Donc, enfin, peu importe. Mais je dis, de toute façon, si vraiment vous voulez qu'on parle, parlons de grâce, de la grâce. Parce qu'après tout, reprochez-le à votre Dieu qu'il ne me donne pas votre grâce, là. Vous l'avez, vous. Mm-hmm. Vous me dites, en gros, je prends le suaire de Turin, je le mets au micro-ondes, ça prend pas feu, c'est la preuve de l'existence historique de Jésus. Je dis, bon, ben voilà, vous avez des arguments de ce type-là. Mais si nous parlions de la grâce, ça me paraît nettement plus intéressant. Sur la question des provinciales de Pascal, sur la question de Saint-Cyran et des jansénistes, alors là, on aurait pu avoir vraiment un débat théologique. C'est ce qui me fait dire qu'il n'y a qu'un seul problème qui est la grâce, mais sur le terrain de la religion. Mm-hmm. Alors après, de manière par extrapolation, on peut imaginer effectivement que le général de Gaulle avait la grâce. Et qu'il y a de la grâce à dire 18 juin 1940, qu'il y a de la grâce à dire j'arrive aux affaires et je vais régler le problème de la guerre d'Algérie, qu'il y a de la grâce à dire je vais créer la bombe atomique pour que nous disposions d'une souveraineté nucléaire, donc d'une souveraineté parce qu'il y a l'Empire soviétique et qu'il y a l'Empire américain. Oui, il y a de la grâce en ce sens sur le terrain politique et ne me faites pas le dire, mais je le dis tout de même, Macron n'a pas la grâce. Et nous avons peu de gens qui aient la grâce qui permettrait justement d'aborder les problèmes historiques en disant, bon ben voilà, et celui-ci apparaît, et quand il apparaît, quelque chose a lieu. Quand Macron apparaît, quelque chose a lieu, mais c'est pas la grâce. Hein.
Mais si on n'a pas la grâce pour l'essentiel d'entre nous aujourd'hui, on est encore terriblement divisé, gens de peu de foi, par des pensées, des convictions, en fait, qui nous éloignent les uns des autres. Ce qui se passe à Gaza, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi une extension de conflits religieux. Et je me dis, est-ce que c'est, encore une fois, soluble, tant et aussi longtemps qu'on accepte qu'on puisse être divisé par...
Sont-ce vraiment des problèmes religieux? Pas seulement.
Non, pas seulement, je suis d'accord avec vous.
Je crois qu'il y a de l'éthologie, vous savez. Le fameux...
Nous sommes
animaux. Oui, l'espace vital d'Adolf Hitler. Vous savez, ce type qui dit il faut développer l'espace vital. Mais le fameux espace vital d'Hitler, c'est l'espace vital de Poutine aujourd'hui. Mmh. Et c'est l'espace vital d'Ursula von der Leyen, qui est elle aussi dans une logique d'espace vital.
Et exactement. Éthologique.
C'est de l'éthologie, oui. Et c'est la même chose avec Israël et la Palestine, toujours espace vital. C'était exactement la même chose avec la guerre d'Algérie, je rappelle Camus, et la présence sur le territoire algérien d'arabo-musulmans, pour utiliser cette expression, et puis de gens qui venaient de la France, mais parfois sans l'avoir vu. C'est-à-dire que les parents d'Albert Camus n'ont jamais vu la France. Leur ancêtre est arrivé en 1830, je crois. Et donc là encore, on dit, mais c'est ma terre, c'est mon territoire. Mmh. Et quand vous regardez...
C'est chez moi.
Oui, quand vous regardez des émissions de télévision consacrées à la vie des animaux, des fois vous vous dites, mais ça fait tellement penser aux hommes. Vous voyez des serpents et vous dites, mais c'est les hommes, quoi. Ils font comme ça, les hommes aussi. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive en disant, bon, est-ce qu'on pourrait pas parler un peu de la paix? Moi, j'aime bien l'abbé de Saint-Pierre, par exemple, qui est l'inventeur du projet de paix perpétuelle, un Normand, du XVIIIe siècle, qui a été pillé par Kant ensuite avec son projet de paix perpétuelle. Et c'est une volonté, la paix. La guerre, c'est une espèce d'urgence animale. La paix, c'est une volonté. Et qui est la guerre entre Israël et la Palestine? On sait pourquoi, on sait comment, etc., etc. On a donné des exemples. Un peu tout à l'heure, on a parlé effectivement du grand moufti de Jérusalem, mais il y a un moment donné où on peut se dire, et si nous partagions le territoire, plutôt que de dire le tout le territoire est à moi ou rien du territoire ne sera à toi. Et si nous partagions ? J'ai vu ça un jour à Tel Aviv, dans un bureau, c'était une carte des territoires palestiniens, indépendamment de la terre israélienne. C'est-à-dire, c'était une espèce de... Il y avait des taches éclaboussées partout en vert. On se dit, mais c'est quoi ça ? Et on m'a dit, bah, ce sont les territoires occupés par les Palestiniens. J'ai dit, enfin, c'est pas possible, c'est comme ça que ça se passe. Moi, bêtement, je me disais, il y a deux ou trois zones, et puis, pas du tout. C'est une espèce de varicelle, quoi. Il y avait des boutons partout. Enfin, pardonnez-moi, je veux pas.
Mais ça fait pas pays, en fait.
Voilà. Et on se dit, comment on fait si on veut faire deux États ? Ça marche pas. Ça veut dire que des endroits habités par des Palestiniens, vous devez les vider pour y mettre des Israéliens et vice versa. Ça marche pas. Donc, on va faire souffrir des gens, souffrir des Palestiniens, etc. C'est bien assez. Ils souffrent depuis un petit moment déjà. Donc, à un moment donné, on peut se dire, c'est ce que dit Camus. Et si nous faisions une fédération, là où il y a des Palestiniens, un gouvernement palestinien, et là où il y a des Israéliens, un gouvernement israélien, le gouvernement palestinien pour les affaires palestiniennes, le gouvernement israélien pour les affaires israéliennes, on évite de faire de telle sorte que le gouvernement de l'un veuille détruire le gouvernement de l'autre et vice-versa, et puis après on a un gouvernement supérieur ou suprême, qui est un gouvernement pour l'intérêt des deux, etc. Ne pourrions-nous pas essayer ce type d'autogestion ? Ce type de conseillisme ? Ce type de forme politique qui ne serait pas jacobin ? Qui serait justement Girondin,
qui est votre modèle en tout.
Mais absolument. Et là, on se dit, ah, alors je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais j'ai dit ça il y a quelque temps sur une chaîne de télévision, et comme par hasard, j'ai entendu la France Insoumise parler de fédération pour commencer à résoudre le problème israélo-palestinien. Alors tant mieux, si vraiment cette idée avance. Moi, je ne veux pas me battre pour dire, c'est moi qui en ai parlé, je m'en fous. Si seulement on pouvait arrêter les guerres, arrêter la haine, et se dire, pensons de manière pragmatique, il ne s'agit pas de détruire Israël pour faire de telle sorte que la Palestine prennent la place du Jourdain jusqu'à Méditerranée. Il ne s'agit pas de détruire la Palestine pour qu'il n'y ait plus jamais un seul Palestinien sur ce territoire-là. Comment peut-on faire coexister les deux, cohabiter les deux ? Et après, vous avez des gens qui disent « Ah, mais moi, ça ne m'intéresse pas, la guerre, ça me plaît bien. Parce que j'adore haïr, c'est mon plaisir. Et finalement, si on n'a pas d'ennemis, on n'a pas d'existence. Notre but, quand on se lève le matin, c'est de préparer la guerre, c'est de détruire, etc. » Des sauvages, de part et d'autre. Hein, je parle de personnes, là, en particulier. Mmh. Je parle aussi bien des Palestiniens que des Israéliens. Et des gens dont le boulot consiste le matin se dire, mais je vais en tuer combien ? Oui. Et le travail du philosophe, c'est pas ça. C'est pas de dire, remettons un peu d'huile sur le feu. Le travail du politicien ou de l'homme politique, c'est pas ça non plus. Je crois que c'est le travail qui consiste à dire, allez, on se calme, on arrête, on pose les armes. D'abord, arrêtez de vous agresser, arrêtez de vous insulter. On reprend la respiration, puis après on va voir ce qu'on peut faire. Et puis on se met autour d'une table, etc. Ça s'appelle être diplomate. Moi, j'ai beaucoup de passion pour les grands diplomates. Ce sont vraiment des grandes figures. Talleyrand est un type détestable, mais un immense
diplomate.
Un immense diplomate, mais humainement détestable. Mais il faut des gens comme ça, hein, qui soient capables de mentir, de trahir, de tromper, de donner, de prêter, d'annoncer, et puis qui, in fine, disent « Allez, on signe un traité, et puis on se calme, et puis voilà, on a évité la guerre, ou on a arrêté la guerre. Je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution que de dire « Cessez-le-feu total, libération des otages, total aussi. » On ne dit pas « Je vous en donne deux, on arrête six jours, enfin, on fait, je sais pas, le ramadan, par exemple, on fait un cessez-le-feu, puis vous nous donnez 20 otages. Non, 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 tout le monde arrête. Tout le monde arrête et on dit, allez, plus on tire plus une balle, on tire plus un obus, on tire plus rien du tout, vous donnez, etc. Et puis là, pour le coup, enfin, il faut trouver un interlocuteur. Qui est l'interlocuteur du Hamas, déjà là, il faut parler avec des gens. Et c'est qui le type qui va dire, je suis la parole des Palestiniens ? Est-ce que c'est Mahmoud Abbas ? Pas sûr.
Disqualifié certainement pour plein de Palestiniens aussi.
Mais oui, bien sûr. C'est pour ça que les diplomates doivent aussi pouvoir trouver les interlocuteurs. En disant, il y a probablement, il y a quelques noms, mais je vais pas les donner, mais je veux dire, de gens qui sont actuellement en prison, des Palestiniens dont on se dit, ça ferait probablement des bons négociateurs. Je le pense, je le crois, je veux le croire. Et ce serait bien qu'on aille les chercher en disant, allez, on est allé chercher Mandela. Dans sa prison, il est devenu ce qu'on sait. Donc il y a un moment donné où on peut avoir de l'espoir en se disant allons chercher tel ou tel qui peut-être, oui, aurait été terroriste jadis, etc., mais à qui on dirait bon...
Mais les Israéliens ont eu pour premier ministre des gens qui, dans des vies antérieures, étaient terroristes.
Bien sûr.
Donc on s'est fait à l'idée que
bien sûr.
Si on combattait les Anglais à une époque comme terroristes, oui. On peut aussi devenir premier ministre de son pays.
Et moi, je le pense. Je pense effectivement qu'il faut qu'à un moment donné, on n'aille pas chercher une noix blanche en disant voilà quelqu'un qui sera pur ou je ne sais quoi. Peut-être aussi peut-on aller chercher des jeunes hein, qui ont l'avantage de leur âge. C'est-à-dire que quand vous avez 30 ans, vous êtes moins corrompu que quand vous avez deux fois 30 ans. Par définition, la vie vous a un peu épargné. Et donc il y a probablement des jeunes, peut-être même des jeunes qui vivent, je ne sais pas, aux États-Unis ou en France ou en Suisse ou ailleurs, et qui viendraient d'ailleurs, qui seraient totalement extérieurs. Je ne sais pas.
Je ne sais pas non plus, c'est tellement pas la conversation que je pensais que nous aurions. Mais en même temps, c'est le bonheur d'échanger. Quand j'ai commencé à vous présenter, j'ai dit ça fait 15 ans qu'une conversation qui est menée, c'est pour l'instant là où cette conversation s'arrête. Elle se rouvrira, j'espère, bientôt, dans quelques mois, avec peut-être comme point de départ quelque chose qui nous donnerait des raisons d'être optimiste à Gaza, ou en Israël, j'en sais strictement rien.
Je ne disais pas mon genre d'être optimiste. Mais j'aimerais tellement pouvoir un jour devant ma télévision découvrir que la guerre s'arrête, que tout se calme et que on se dise des gens ont envie de se parler. Vous avez vu à chaque fois que des gens ont eu envie de se parler, il y a des gens qui ont tué ceux qui avaient envie de se parler.
Je l'ai noté souvent plus d'une fois. Et vous qui aimez dire que vous êtes ni pessimiste ni optimiste, mais tragique.
Je suis hein, plus que jamais. L'histoire c'est vraiment le lieu du tragique par excellence.
J'ai pris plaisir à discuter d'histoire et de ce qui bouscule notre monde. Michel Onfray.
Moi aussi.
Grand plaisir. Très, très chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû dire qu'on n'a pas dit? Sans doute beaucoup de choses.
Vive le Québec libre.
Vive le Québec libre. Pour l'instant, c'est beaucoup moins fratricide chez nous, ce combat. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans notre équipe, il y a Jeanne Creteau à la réalisation, Marianne Grenon à la recherche et à la production, Stéphane Bureau au microphone, Michel Onfray. À très bientôt.
À très bientôt et merci beaucoup.
Au revoir.